Wikipédia, histoire de la Crète. La Crète est la principale île grecque et également l'une des plus méridionales de Grèce. Elle représente une des frontières symboliques entre l'Occident et l'Orient. Située à équidistance de l'Europe, de l'Asie mineure et de l'Afrique, elle occupe une position géographique qui lui confère une riche histoire tandis que sa position stratégique lui vaut d'avoir été le terrain de nombreux conflits entre peuples en vue du contrôle de la Méditerranée. L'île est un carrefour entre l'Europe et l'Asie mineure, l'Europe et le Proche-Orient, ainsi qu'entre l'Europe et l'Afrique. Partie intégrante de la Grèce de nos jours, la Crète n'est pourtant réunie à celle-ci que depuis 1913. Habitée au moins depuis le néolithique, la Crète est le berceau de la civilisation minoenne qui domine la Méditerranée orientale du 4e au 1er millénaire avant Jésus-Christ, avant de s'effacer devant l'essor de la Grèce continentale. Lorsque Rome se tourne vers l'Orient, l'île est une étape de l'expansion de l'Empire. Après le partage de l'Empire, elle intègre l'Empire d'Orient. Elle est alors tour à tour byzantine, arabe au X siècle, puis vénitienne après la 4e croisade et le partage de l'Empire byzantin entre les royaumes francs. La Crète est alors partagée entre occupation latine et héritage byzantin. Sa position en Méditerranée est alors stratégique pour la défense du commerce de la Sérénissime République de Saint-Marc en Méditerranée. À toutes les époques de son histoire, l'île attise également la convoitise des pirates qui en font une base de départ de leur raid. Les actes de piraterie et la menace qu'ils font peser sur le commerce méditerranéen est souvent le prétexte pour une intervention et l'occupation de l'île de la part des peuples ayant des vues sur l'île. La Crète passe sous domination ottomane au cours du XVIIIe siècle. L'histoire de la Crète est jalonnée de révoltes et d'insurrections du peuple crétois contre leurs divers occupants. Ces révoltes sont d'autant plus marquées au cours des 3 siècles d'occupation ottomane et en particulier au cours du XIIIe siècle. La Crète échappe en pratique à la tutelle turque à partir de 1897, mais ne parvient à être rattachée à la Grèce qu'en 1913. La Crète est le théâtre d'affrontements lors de la Seconde Guerre mondiale, puis est une des quelques régions occupées par l'Allemagne lors du partage de la Grèce entre l'Allemagne, l'Italie et la Bulgarie. La Crète a pendant longtemps été une terre d'émigration, souffrant d'un exode rural. L'essor du tourisme depuis les années 1970 apporte un certain renouveau économique. Préhistoire. On connaît peu de choses sur l'apparition de l'ancienne civilisation crétoise, car peu de témoignages écrits nous sont parvenus. Cela contraste avec les palais, les maisons, routes, peintures et sculptures qui eux existent toujours. L'histoire crétoise est baignée de légendes telles que celles du roi Minos, de Thésée, du Minotaure, de Dédale ou d'Icare, qui nous sont parvenues par le biais d'historiens et de poètes grecs. En raison du manque de témoignages écrits, la chronologie concernant la Crète est basée sur le style des poteries égéennes et du Proche-Orient, de sorte que les frises chronologiques de la Crète ont été réalisées à partir des objets achetés à d'autres civilisations, égyptiennes par exemple, une méthode courante. Pour les temps les plus anciens, la datation au carbone 14 de reste organique et de charbon de bois offre des dates indépendantes. À partir de ces éléments, on pense que la Crète est habitée à partir du 8e millénaire avant Jésus-Christ, comme le prouvent de nombreuses écailles d'obsidienne trouvées à Tripti et Rousset, à l'aide d'Héraclion et les peintures rupestres d'Asphandus Fakion, représentant des bêtes à cornes et des motifs abstraits. L'installation d'humains est attestée au néolithique. Des outils en os et en cornes ont été découverts dans la région de Rétimnon. Ils auraient appartenu à des hommes de la période interglaciaire, mais aucune preuve n'est pour l'instant assez convaincante. Cependant, il semble bien que l'idée d'une occupation depuis le paléolithique se renforce. D'autant que lors de la dernière période glaciaire, le niveau de la Méditerranée devait se trouver 100 mètres en dessous du niveau actuel et qu'il aurait été relativement aisé d'atteindre l'île depuis le Péloponnèse. La faune de Crète est alors une faune pléistocène avec des hippopotames nains dont des restes ont été découverts sur le plateau de Kataro dans les monts du Lacity, des chevaux nains, des éléphants nains, des cerfs nains, Megasrocrotensi, des rongeurs géants, des insectivores, des blaireaux et une sorte de loutre terrestre. Il n'y a pas de grands carnivores. La plupart de ces animaux disparaissent à la fin de la dernière glaciation. Il n'est pas certain que l'homme ait joué un rôle dans cette extinction que l'on retrouve sur d'autres îles de Méditerranée comme en Sicile, à Chypre et Majorque. Jusqu'à maintenant, aucun ossement de cette faune endémique n'a été retrouvé dans les sites néolithiques. Les premiers habitants viennent probablement de l'Est, d'Anatolie, de Cilicie ou peut-être de Palestine. Ils introduisent alors du bétail, des moutons, chèvres, cochons et des chiens, mais également la culture des céréales et des légumes. Jusqu'à présent, le site de Nosso, dont l'occupation remonte au VIIIe millénaire avenue Jésus-Christ, Couchix, demeure le seul site à céramique ou pré-céramique. En effet, le fait qu'aucune poterie n'ait été retrouvée dans la Couchix laisse penser que l'occupation de site se fait avant l'apparition de la céramique. Le site couvre alors 350,000 mètres carrés. Les rares ossements retrouvés sont ceux d'animaux mentionnés ci-dessus, mais aussi de cerfs, de blaireaux, de martres et de souris. L'extinction de la mégafaune locale n'a pas laissé beaucoup de gibier. De la poterie néolithique a été retrouvée à Nosso, les grottes de Lera et de Jrani. Le néolithique tardif a vu la prolifération de sites, montrant ainsi une croissance de la population. Au cours de cette période, l'âne et le lapin sont été introduits sur l'île, le cerf et la grimie chassés. La grimie, une chèvre sauvage, conserve les traits des premières domestications. Chevaux, daims et hérissons ne sont attestés qu'à l'époque minoenne pour l'instant. Les céramiques du néolithique évoluent tout au long de cette période. Simples et sans décoration au début du néolithique, elles deviennent par la suite plus sophistiquées, avec des gravures, et les techniques de fabrication semblent assez avancées pour l'époque. De couleur noire et rouge, ces céramiques étaient cuites dans des fours ouverts. Les premières statuettes apparaissent à cette époque, faites d'argile, de pierre, d'ardoise, de marbre ou de coquillage. À la fin du néolithique, elles représentent généralement des figures féminines, avec les parties du corps relatives à la fécondité mises en valeur, ventre, cuisse, sein. Au néolithique pré-céramique, l'habitat se présente sous forme de hutte en pieux de bois, avec un sol en terre battue. On trouve en Crète une particularité absente dans le reste de la mer Égée, les tombes d'enfants à l'intérieur même des maisons. À partir du néolithique ancien, les fouilles de Nosso montrent que les maisons possèdent des pièces contiguës, des murs de pierre, surmontés de briques, couverts d'un enduit à l'intérieur, comme le sol. Les toits sont plats et faits de torchis. Les maisons s'équipent de marches en terre cuite et de foyers au néolithique ancien 2. Les morts sont enterrés et accompagnés de poteries et de bijoux en pierre. De nombreuses grottes sont occupées dans un but d'habitation, surtout dans les régions les plus montagneuses. Les morts sont souvent enterrés dans les grottes, une pratique courante même, après que les hommes du néolithique abandonnent ces grottes pour vivre dans des habitations. Les relations de la Crète avec le reste de la mer Égée semble se développer essentiellement vers la fin du néolithique. La céramique peinte en rouge et polie laisse supposer que des relations existent avec les régions nord et est de la mer Égée où l'on trouve des céramiques identiques. L'introduction de l'obsidienne en provenance de Milos et de Nisiro pour la fabrication de petits outils présuppose l'essor de la navigation en mer Égée. Antiquité. Crète minoenne et mycénienne. La chronologie crétoise est établie à partir des fouilles d'Arthur Evans, qui essaya de reconstituer la chronologie de la Crète ancienne, en établissant des correspondances avec l'histoire de Troie, des Cyclades, de la Grèce de l'Égypte et de la Mésopotamie à partir des objets anatoliens, syro-phéniciens ou égyptiens retrouvés en Crète, et aux objets crétois retrouvés par les archéologues dans ces régions. La chronologie d'Evans rattache la période comprise entre la fin du néolithique et l'invasion des Achéens au roi de Nosso, Minos est d'appeler minoenne la civilisation crétoise de l'époque. Se basant sur la céramique, Evans distingue à l'intérieur du minoen trois périodes. Le minoen ancien, ma, le minoen moyen, messieurs, et le minoen récent, monsieur, qui se subdivisent elles-mêmes en périodes. Des chronologies plus récentes, et tentant de pallier les faiblesses de celles d'Evans, se fondent sur l'introduction en Crète des métaux et sur la construction et la destruction des palais. Époque pré-palatiale, proto-palatiale, néo-palatiale. Époque pré-palatiale. La civilisation minoenne est la plus importante civilisation de l'âge du bronze du monde grec. La thèse d'Arthur Evans, selon laquelle l'introduction des métaux en Crète est due à des émigrés venus d'Égypte, est aujourd'hui révolue. La théorie actuelle penche en faveur du fait que toute la région de l'Égée est à cette époque habitée d'un peuple désigné comme pré-hellénique ou égéen. L'Égypte semble trop lointaine pour exercer une grande influence à cette époque. Au contraire, c'est l'Anatolie qui joue un rôle probant dans l'initiation de la Crète aux arts des métaux. La diffusion de l'usage du bronze en mer Égée est liée à de larges mouvements de population depuis les côtes de l'Asie mineure vers la Crète, les Cyclades et le sud de la Grèce. Ces régions entrent dans une phase rapide de développement social et culturel, marquée principalement par l'essor des relations commerciales avec l'Asie mineure et Chypre. Grâce à sa marine, la Crète occupe une place prédominante en Égée. L'utilisation des métaux multiplie les transactions avec les pays producteurs. Les Crétois vont chercher le cuivre à Chypre, l'or en Égypte, l'argent et l'obsidienne dans les Cyclades. Des ports se développent sous l'influence de cette activité croissante. Zakro et Palaiocastro sur la côte orientale, les îlots de Moklo et Pseira sur la côte septentrionale deviennent les principaux centres d'échange avec l'Asie mineure. L'importance de celle-ci pour la Crète explique la prépondérance de la partie orientale de l'île qui en constitue le foyer le plus actif. Alors que Knossos ne connaît encore qu'une civilisation subnéolithique, sans métal, Malia fait figure de métropole. C'est à cette époque que des communautés de fermiers et d'éleveurs se développent dans la plaine de la Messara. Il semble que dès le Minoen ancien, les villages et les petites villes deviennent la norme et les fermes isolées se font beaucoup plus rares. La généralisation de l'emploi du bronze déplace le centre de gravité de l'île vers son centre, dont les cités commencent à concurrencer celles de la partie orientale. De plus, de nouvelles matières premières détournent l'attention des Crétois de l'Asie mineure. Par exemple, l'étain d'Espagne, de Gaule ou de Cornouailles arrive sur les côtes siciliennes et de l'Adriatique et certaines cités orientent leur commerce vers ces régions. C'est ainsi que l'embouchure du Kerato se développe. Une route traverse la Crète en son milieu avec Knossos et Phaistos comme principale étape. En ce qui concerne l'agriculture, on sait grâce aux fouilles que presque toutes les espèces connues de céréales et de légumineuses sont cultivées et que tous les produits agricoles, connus encore de nos jours comme l'huile, les olives, le vin et le raisin, sont déjà produits à cette époque. Époque proto-palatiale. Alors que pour la Grèce continentale, on considère que le bronze moyen est une période de transition, au contraire, en Crète, elle est d'une grande prospérité. La Crète des premiers palais connaît un essor commercial exceptionnel qui se traduit par une prépondérance de la Crète en Égée, de sorte que Milos, Délos ou Théra ne sont plus que des succursales de l'île. Cette prépondérance gagne même Égine, l'Argolide, la Grèce centrale ou Chypre. Cette expansion commerciale des Minoens est marquée par l'abondance des poteries minoennes retrouvées hors de Crète, et ce jusqu'en Messénie ou en Laconie. Dans les îles de Kéa et de Samothrace ont été également retrouvés des seaux minoens en forme de disques en terre cuite. Des sources historiques écrites décrivent les relations de la Crète avec les autres pays, comme les textes retrouvés à Marie et datant du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui mentionnent que la Crète importe des matières premières, bronze, étain, ivoire, et exporte comme objet de luxe les produits des ateliers, aires des palais, armes, étoffes et chaussures. Les recherches archéologiques montrent un changement important dans la civilisation minoenne aux alentours de moins 2000. L'élément principal de ce changement est la fondation des premiers palais, qui sont la concentration des pouvoirs dans certains centres. Époque néo-palatiale. Vers 1700 avant J.C., les palais sont détruits? Les historiens divergent quant à l'origine de ces destructions. Certains estiment qu'elles sont dues à une invasion indo-européenne et des louvites venus d'Anatolie en particulier. D'autres pensent qu'il s'agirait des icônes venus d'Égypte ou encore de troubles internes tels qu'une guerre civile. Enfin, il y a la thèse d'un tremblement de terre, peut-être engendré par l'éruption du volcan de Santorin, mais celui-ci n'aurait affecté que la partie centrale de l'île puisque le palais de Malia est épargné par la destruction. Cette catastrophe, quelle que soit son origine, ne met pas un terme à la création minoenne. Les palais sont reconstruits sur les ruines des précédents et la civilisation minoenne entre dans ce qui est considéré comme son âge d'or. La période des nouveaux palais se divise en trois phases. Moins 1700 à moins 1600 est une période de reconstruction, moins 1600 à moins 1500 est l'apogée des Minoens. Enfin, de moins 1500 à moins 1400, c'est la période d'extension de l'influence minoenne sur les autres peuples de Méditerranée, en particulier les Mycéniens du Péloponnèse. À Knossos, Phaistos, Agia Triada ou Malia, de nouveaux palais sont construits ou les anciens sont restaurés et embellis par des innovations architecturales telles que l'utilisation de colonnes de cyprès ou le système de puits de lumière. La partie orientale de l'île participe à cette reprise. Ainsi, le palais de Malia, abandonné depuis moins 1900, est de nouveau occupé. Ces palais sont de grands ensembles, composés de deux étages au plus et sont d'aspect similaire qu'ils soient en construit à Knossos, Phaistos, Malia ou Zakro. Ils sont édifiés autour d'une grande cour centrale et composés d'un ensemble complexe de bâtiments enchevêtrés. Les palais minoens sont équipés d'un système d'approvisionnement en eau et d'un système d'égout. La Crète mycénienne. L'éruption du volcan de Santorin vers moins 1400 porte un coup fatal à la civilisation minoenne. Le tremblement de terre provoqué par l'éruption et la destruction des cités qu'il engendre favorise les incursions des Mycéniens. Les traces archéologiques montrent l'existence d'établissements mycéniens sur l'île dès moins 1380. Cette nouvelle phase de l'histoire minoenne est appelée Crète mycénienne, ce qui signifie que l'île devient une partie du monde mycénien, une dépendance du continent, mais elle ne perd pas son identité pour autant. La présence mycénienne est attestée par les légendes d'époque postérieure et par la toponymie de certains lieux. Agamemnon, roi de Mycène, serait le fondateur de la Pas, Teja ou Pergamo. Les noms de lieux tels que Gortyne ou Arcadia sont d'origine péloponnésienne et pourraient être des survivances de l'occupation mycénienne. Homère, dans l'Iliade, mentionne que cette cité crétoise prenne part à la guerre contre Troie, menée par Idoménée et d'autres seigneurs, eux-mêmes directement sous les ordres d'Agamemnon. Les 80 navires fournis par la Crète en font l'une des plus gros contributeurs à la guerre de Troie et montreraient que l'île n'est pas complètement ruinée par l'éruption. C'est à cette période que sont importés les dieux grecs en lieu et place des dieux minoens. Zeus, Poséidon, Héra, Athéna remplacent la déesse mère. Des éléments de religion minoenne subsistent, comme en attestent les tablettes de Linéherbe mentionnant une prêtresse des vents ou une maîtresse du labyrinthe. Le culte de l'enfant Zeus est aussi considéré comme crétois. À l'inverse, Nosso influence toujours certaines zones de l'Égée pour certains domaines. Les armes et les bijoux créés à Nosso sont adoptés par le continent. Vers la fin du X-siècle, la Crète connaît un bouleversement lié au peuple de la mer, même si leur impact est moins fort qu'en Grèce continentale. Plus fort est le changement qui a lieu après la catastrophe de Mycène. Des groupes de populations venues du Péloponnèse s'installent en Crète. De nouveaux éléments apparaissent dans la vie des Crétois tels que l'incinération des morts, l'utilisation du fer, les vêtements à broches, la décoration géométrique des poteries. Ces nouveaux éléments seraient d'héritage dorien. La Crète dorienne. Selon Thucydide, l'invasion de la Grèce par les Doriens a lieu 80 ans après le sac de Troie. Venant de la région danubienne, les Doriens arrivent en Grèce, soit par l'Illyrie et l'Épire, soit par la Thrace et la Macédoine. Les populations chassées trouvent alors refuge en Crète et à Chypre. La Crète est touchée à son tour par l'invasion dorienne vers moins 1100. Cette invasion est loin d'être pacifique. Les fouilles archéologiques montrent une résistance des Crétois sur les principaux sites dont Nosso qui est détruite. À Carphi, Minoens et Mycéniens s'unissent et trouvent refuge sur ce site très escarpé. Les Doriens colonisent l'île de façon intensive, établissant de nombreuses cités. Les mythes racontent que Totamo, fils de Doro, roi des Doriens, fonde la première dynastie dorienne en Crète, tout juste une génération après l'établissement des premiers Doriens. La tradition veut que les premiers colons soient Poli et Delphos de Sparte et Altémène d'Argos. Les Doriens se répartissent en trois tribus, les Ilès, Dimane et Pamphylois. D'autres tribus doriennes s'établissent en Crète par la suite. Les Doriens apportent avec eux l'usage du fer, la construction de temples, pour les Minoens et les Mycéniens, les cérémonies se passaient dans les palais, et l'incinération des morts. Cependant, la crémation des morts pourrait ne pas être liée à l'arrivée des Doriens. Déjà pratiquée à la même époque à Rhodes, Chypre ou Co, cette pratique s'installe en Crète, très tôt lors de la période dorienne, et pourrait donc avoir une origine moyenne orientale. Cette invasion entraîne de nouvelles migrations de la population crétoise vers l'Asie mineure. Minoens, Mycéniens et Doriens fusionnent en une nouvelle entité ethnique et culturelle. Les descendants des Minoens, autrement appelés Éthéocrétois, les Crétois purs, sont marginalisés et se retrouvent principalement dans l'aide de la Crète. Ils se voient réduits au statut de périèques. Une étude sur la toponymie en Crète montre que 70% des noms de lieux sont d'origine grecque, 20% pélasgienne et 10% crétoise. Période dédalique ou renaissance crétoise. Au VIe et VIIe siècle avenue Jésus-Christ, la Crète retrouve une partie de sa splendeur passée. Le terme de période dédalique n'a cependant rien à voir avec le Dédale de l'époque minoenne qui créa le labyrinthe. Dédale est le nom d'un artiste à qui la tradition accorde l'invention des outils de sculpteur et la création des premières statues de marbre. Si son existence n'est pas avérée, celle de plusieurs de ses disciples, dont Dipoano est ce qu'il y est plus certaine. La caractéristique majeure de l'art dédalique est l'aspect orientalisant des œuvres produites. Les fouilles archéologiques ont permis de retrouver quelques œuvres importantes dont la Dame d'Auxerre. Le commerce et la navigation se ravivent et la Crète participe à la grande vague de colonisation que connaît le monde grec. À partir de -735, les Crétois établissent des colonies en Sicile, Étrurie et sur les côtes françaises, près de Marseille, où ils arrivent 100 ans avant les Phocéens. Au siècle avenue Jésus-Christ, ils s'associent à Rhodes pour fonder les colonies siciliennes de Gela et Agrigente, puis avec Thra pour fonder Cyrène, en -631. Cette renaissance de la Crète est courte et s'interrompt au VIe siècle avenue Jésus-Christ. L'isolement et le déclin qui sont de mise jusqu'à la conquête romaine semblent avoir deux raisons. L'émergence de cités-états, Athènes ou Milet entre autres, qui monopolisent le commerce méditerranéen, et les querelles internes qui plongent l'île dans un état de crise permanent. Institutions et sociétés doriennes. La société dorienne en Crète est organisée de façon très similaire à celle de Sparte et d'autres centres doriens de Grèce continentale. La population est divisée en trois classes, les citoyens, les aptérois et une large classe servile. Les citoyens libres sont principalement les conquérants doriens ou leurs descendants et constituent l'élite des cités-états. Ils ont un contrôle exclusif en matière militaire et politique, reposant sur un système militaire strict. Ils sont soumis à une formation collective. Chaque citoyen appartient à une hétérie, dont les membres sont camarades de combat et, comme à Sparte, leurs repas se prennent en commun lors de Sicici. Les citoyens participent individuellement aux dépenses, mais l'État y participe également et les dépendants ruraux, qui travaillent la terre des citoyens, doivent également verser une certaine somme pour l'achat des denrées nécessaires, de sorte que même les plus pauvres des citoyens peuvent prendre place à la table commune. Sous les citoyens, on trouve les aptérois, en dehors des hétéries en grec, qui sont des hommes libres mais exclus des hétéries, donc dépourvus de droits politiques. Ce sont souvent d'anciens citoyens frappés d'atimie, des serfs affranchis ou encore des étrangers. La classe servile peut être divisée en deux catégories. Les habitants premiers de Crète forment les périèques. Ils sont principalement des paysans qui conservent une partie de leurs terres et paient des taxes à leur nouveau maître de rien. Enfin, les esclaves forment la classe sociale principale de Crète, composée de natifs crétois ou de prisonniers de guerre. Ils cultivent les terres des citoyens. Une conséquence directe de la conquête dorienne est l'abandon du système royal patriarcal. Ce sont les grandes familles doriennes qui administrent l'île. Les cités crétoises sont désormais administrées par deux collèges, l'Écosme et le Conseil des Gérontes. Les Cosmes sont souvent au nombre de 10 par cité. Ils sont élus par les grandes familles pour un an et disposent de pouvoirs civils et militaires considérables. Surveillance des mœurs, état des finances, statut des étrangers, ils sont les chefs militaires en temps de guerre et les plus hauts fonctionnaires en temps de paix. À leur sortie de charge, ils entrent au Conseil des Gérontes, boulets, en tant que membres à vie. Ce Conseil des Anciens guide les Cosmes dans leurs décisions. La Crète aux époques classiques et hellénistiques. La Crète à l'écart des grands conflits. Alors que la Grèce connaît son apogée, la Crète est en marge du monde grec. Elle est absente de la Confédération maritime d'Athènes et échappe à l'hégémonie spartiate. Il existe peu de sources traitant des relations entre l'île et le reste de la Grèce, à part quelques alliances entre certaines cités, Nesso et Tilisso, avec Argos en -450, ou Lito avec l'Indo. La Crète est en proie aux querelles internes. Le caractère montagneux de l'île accentue le cloisonnement. L'état de l'économie force de nombreux Crétois à s'enrôler comme mercenaires dans les armées étrangères. Thucydide mentionne à plusieurs reprises les archers crétois de l'armée athénienne, plus tard, c'est Xénophon qui évoque les archers crétois au sein des 10 000. À partir de la guerre du Péloponnèse, on trouve des mercenaires crétois dans toutes les armées de Méditerranée, y compris lors des conquêtes de Jules César, Cretens Sagittari. Même si des mercenaires crétois prennent part aux différents conflits du monde grec, la Crète reste à l'écart de ces conflits. En -480, les Grecs menacés par Xerxès invitent les Crétois à s'associer à leur lutte. Ils restent indifférents à l'appel, prétextant un avis défavorable de l'oracle delphique. De la même manière, ils restent neutres dans la guerre du Péloponnèse, même après l'attaque de Kydonia par la flotte athénienne. Ce retrait du monde grec se manifeste également par l'absence des Crétois lors d'âge panhellénique. Les coureurs de fond crétois étaient jusque-là réputés, mais sont absents des palmarès des Jeux, hormis en -448. À partir de la moitié du IVe siècle avenue Jésus-Christ, la Crète sort de son isolement. L'île retrouve l'attention de ses voisins à des fins stratégiques, mais devient également l'objet de l'intérêt des grands philosophes de l'époque s'intéressant aux différents modèles de gouvernement des cités-états grecs. Durant la seconde moitié du IVe et au début du IIIe siècle avenue Jésus-Christ, Sparte sert d'exemple aux théoriciens politiques, c'est donc tout naturellement qu'ils se tournent vers la Crète, dont les ressemblances avec Sparte sont frappantes. Des similitudes qui s'expliquent par l'origine commune de leurs ancêtres, les Doriens. Platon, Aristote, Callisthène et Xénophon, entre autres, écrivent sur la Crète, les œuvres de ces deux derniers ne nous sont pas parvenues. Platon s'attarde sur le système d'éducation et sur les repas en commun. Aristote pense que le mauvais fonctionnement du régime crétois est compensé par sa situation insulaire et qu'à l'inverse de Sparte, elle n'a pas à redouter un soulèvement de ses périèques. Mais pour lui, Sparte est supérieure car elle a su améliorer les lois de Minos grâce à Lycurgue. À l'époque d'Alexandre le Grand, on sait que de nombreux mercenaires crétois servent dans l'armée et que son amiral Néarque est crétois. Mais l'attitude des cités crétoises n'est pas uniforme. Certaines cités supportent la politique macédonienne, Knossos, Gortyne, Kydonia, tandis que d'autres sont aux côtés de Sparte, Lyto. Sparte essaie d'entretenir un sentiment anti-macédonien sur l'île au travers de ses villes alliées. Ainsi, après le début de l'expédition d'Alexandre en Asie, le roi de Sparte agitante de soulever la Crète. Jusqu'à la conquête de la Phénicie, de nombreuses cités grecques montrent des velléités d'indépendance. Des velléités qui s'estompent après la bataille d'Issos, sauf pour Sparte. Ainsi, en -333, Agis envoie son frère Agésila en Crète afin d'en prendre le contrôle, contraignant Alexandre à dépêcher sur l'île une armée, afin de dissiper la présence spartiate. Alexandre envoie sa flotte commandée par Amphotéros qui libère la Crète. Crète hellénistique. Unité et division. Après la mort d'Alexandre, les querelles internes sont accentuées et, par l'attitude des nouveaux États grecs, qui cherchent à nouer des relations avec les cités de Crète. L'île se divise alors en ligues, dont la constitution s'explique par des facteurs géographiques, des considérations ethniques et des affinités politiques. On recense 4 ligues. Astérisque la ligue de Knossos, la plus importante et la plus étendue, comprenant une vingtaine de cités. Astérisque la ligue de Gortyne. Astérisque la ligue de Phaistos. Astérisque la ligue des montagnes, dont l'étendue géographique correspond à l'extrême sud-ouest de l'île. Bien que la Crète soit divisée en 4 ligues, seules 2 cités exercent une domination politique et militaire sur les autres, Knossos et Gortyne. Mais leur rivalité incessante permet à Lyto et Kydonia de rivaliser parfois avec elles. On assiste pourtant au 3e siècle avenue Jésus-Christ à un effort d'unification face à la menace extérieure. Prend alors naissance le Quanon ou Assemblée des cités crétoises. La création de cette assemblée pourrait dater de -221, lorsque Knossos et Gortyne se rapprochent par un accord leur permettant de contrôler la totalité de l'île. Cette assemblée comprend un conseil et une assemblée populaire et se réunit principalement à Knossos. Il semble que le Quanon soit responsable d'un effort de législation et de régulation des relations entre les cités crétoises afin de maintenir la paix. Il semble qu'il y ait également un sorte de cour de justice fédérale, le Quanodikaion, destiné à arbitrer les conflits entre cités. Bien que le Quanon montre un effort d'unification, les cités de Crète restent autonomes dans certains domaines. C'est le cas par exemple dans la gestion de leurs relations extérieures. Si dans le système du Quanon, les cités de Crète sont supposées être égales, ce sont surtout Knossos et Gortyne qui jouent un rôle important dans la mise en place et la tenue de l'assemblée. Le Quanon devient même une scène pour ces deux cités qui s'y livrent une lutte d'influence. Intervention étrangère. Égypte ptolémaïque. À partir de -270, de nombreuses cités de la partie orientale de l'île sont sous l'influence de l'Égypte. Le besoin de contrôler les routes maritimes de la Méditerranée orientale pousse Ptolémée II à s'intéresser à la Crète. Une querelle entre les cités d'Itanos et Préso à propos du contrôle d'un sanctuaire dédié à Zeus est l'occasion d'une intervention de l'Égypte qui, appelée au secours par Itanos, envoie une armée qu'elle laisse dans l'aide de l'île. L'influence égyptienne gagne d'autres parties de l'île qui devient un protectorat des Ptolémées. Certaines cités de l'aide de la Crète restent sous protectorat égyptien pendant environ 2 siècles, même lorsque l'île est considérée comme protectorat macédonien à partir de -216. Car l'Égypte ptolémaïque n'est pas le seul état hellénistique à s'intéresser à la Crète. Lyto était en bon terme avec le royaume séleucide. Éleuterna et Hérapytna, d'abord sous influence de l'Égypte, signent ensuite un traité d'amitié avec Antigone, roi de Macédoine, entre -227 et -224. Philippe V de Macédoine et la guerre crétoise. Vers -220, la Crète est ravagée par la guerre civile. Philippe V de Macédoine, qui est un monarque ambitieux, voit en la Crète une base idéale et un allié de choix pour ses projets d'expansion. Il répond à l'appel de quelques cités qui lui demandent d'intervenir dans le conflit. Il entreprend la pacification de l'île dont il sécurise rapidement la partie occidentale. Un protectorat macédonien s'établit sur l'île en -217-216 et Philippe est reconnu comme patron de la Crète. Dans ses ambitions expansionnistes, Philippe se heurte à Rhodes, pourtant son ami et allié, mais dont la flotte contrôle les voies maritimes, vers l'aide et donc le commerce. Philippe V use de deux méthodes pour déstabiliser Rhodes, la piraterie et la guerre. Il se tourne alors vers la Crète, habituée à la piraterie, afin qu'elle prenne part à cet exercice particulier. En -205, elle est devenue une réelle menace pour Rhodes et Philippe décide alors d'entrer en confrontation militaire directe. Les cités d'Olou et de Hierapytna font partie des premières à répondre à son appel. Mais la guerre crétoise tourne en faveur de Rhodes qui s'assure le soutien de Neusso et d'autres cités du centre de la Crète. Hierapytna et Olou ne peuvent lutter sur deux fronts et doivent capituler. La majeure partie de l'aide de la Crète passe sous le contrôle de Rhodes qui place des bases navales stratégiques afin d'éviter tout acte de piraterie. Rome. Le contrôle de la partie orientale de la Crète par Rhodes met fin à la piraterie dans cette région. La partie centrale de l'île retrouve une certaine sécurité également, Neusso entretenant de bons rapports avec Rhodes. En revanche, la partie occidentale de l'île reste un repère pour la piraterie, d'autant qu'elle est soutenue par Sparte et son roi Nabi qui exerce toujours une certaine influence dans cette région et les ports de Crète servent de repère à sa flotte. Jusqu'en -196, Nabi est l'allié des Romains, date à laquelle, estimant qu'ils n'ont plus besoin de son soutien, il lui demande de leur céder tous les ports qu'il possède sur l'île. Cet événement marque le début de l'intérêt des Romains pour la Crète. La présence de Rome n'empêche pas le renouveau de la piraterie. Mais désormais, Rome intervient dans les conflits en tant que médiateur. Ainsi, la seconde guerre crétoise, -155-153, opposant la Crète à Rhodes à propos de la menace pirate se termine par une médiation de Rome dont l'intervention est demandée par les Rhodiens. La Crète romaine. La conquête. En -74, Marcus Antonius Creticus, le père de Marc Antoine, membre du second triumvirat, est nommé à la tête de la flotte de Méditerranée dans le but de conquérir la Crète. Deux événements sont à l'origine de cette décision. Les dégâts que cause la piraterie à la flotte romaine, surtout depuis l'arrêt de l'entretien par Rome d'une flotte permanente et l'établissement d'une alliance entre la Crète et Mithridate VI, roi du Pont et ennemi de Rome. Peu enclin à se lancer dans une telle opération, ce n'est qu'en -71 que Marcus Antonius Creticus décide d'attaquer la Crète. Alors que la victoire semblait pourtant facile, il est vaincu et sa flotte anéantie entre l'emplacement de l'actuel Héraclion et l'île de Dia. De nombreux navires romains sont coulés et de nombreux autres capturés ainsi que leurs équipages. La plupart des prisonniers romains sont pendus au mât des navires et les Crétois imposaient Marcus Antonius Creticus une paix si humiliante que le Sénat refuse de la ratifier. Par peur de représailles, les Crétois souhaitent néanmoins négocier et envoient à Rome 30 éminents représentants de l'île afin de conclure une alliance avec les Romains. Mais le Sénat en a déjà décidé autrement et estime que la Crète doit être conquise. En -68, Rome est débarrassée de Mithridate. Elle ordonne aux Crétois de lui livrer les prisonniers romains, les vainqueurs de Marcus Antonius Creticus, ainsi que 300 otages et 400 talents d'argent. Comme il refuse, le général Quintuque Ocilius Metellus Creticus est chargé de les soumettre. Il débarque dans l'ouest de la Crète et livre une longue guerre de siège, avançant d'ouest en est, afin de soumettre à l'autorité romaine toutes les poches de résistance, érasant les villes qui lui résistent. Les Crétois refusent même de traiter avec Metellus en raison de sa cruauté et préfèrent remettre leur capitulation à Pompée. Mais avec la prise de Hierapytna en -67, l'île est alors entièrement sous contrôle des Romains et c'est bien Metellus qui termine la pacification de l'île en -63. Cette guerre voit Metellus son agnomène, Creticus, le Crétois. Administration romaine. Dans un premier temps, l'île est associée à la Cyrénaïque. Mais la situation évolue à plusieurs reprises dans les décennies qui suivent. César sépare la Crète et la Cyrénaïque. C'est Marc Antoine qui réunit à nouveau les deux régions, en -40 avant de céder quelques années plus tard, en -38 ou -34, une partie de l'île à Cléopâtre, en même temps que Cyrène. Finalement, en -27, la Crète et la Cyrénaïque sont à nouveau réunies, avec Gortyne comme capitale, et ce jusqu'à Dioclétien. Sur les sites archéologiques, il semble qu'il y ait peu de gros dégâts associés au transfert de l'autorité aux Romains. Un seul complexe palatial semble avoir été rasé. Il y eut en revanche de nombreuses constructions. Les Romains édifient plusieurs routes et des aqueducs. Gortyne semble avoir un comportement pro-romain, ce qui lui vaut d'être récompensé et fait capitale de la province. On y construit un prétoire, un théâtre, un odéon, une nymphée, un forum, etc. La cité devient alors la première place de Crète, qui mesure d'après Strabon 50 stades de diamètre, environ 10 km. Nossos, bien qu'initialement désignée capitale de la province, se trouve donc léguée au rang de deuxième ville de l'île. Habitée par des soldats romains et transformée en colonie, sous le nom de Colonia Julia Nobilis, elle ne réussit cependant pas à devenir un centre militaire romain. Des cités comme Lito ou Irapitna se développaient, comme Gortyne, se parent de forums ou de temples. Sur la côte sud de l'île se développent deux petits ports servant à abriter les galères sur la route de l'Asie mineure et de l'Égypte. Arrivée du christianisme. C'est au cours de la période romaine qu'apparaît le christianisme en Crète. On prête à Saint Paul l'évangélisation de la Crète, ainsi que l'organisation de l'église dans l'île. En raison d'une tempête, il aurait fait escale une première fois en Crète, sur la côte méridionale, à Calilimène, les beaux ports. Il serait revenu, après sa première captivité, et aurait laissé en Crète Tite, son disciple et premier évêque de Gortyne. La tradition veut que Tite soit lui-même crétois. Il aurait divisé l'île en 9 diocèses, même si les sources datent du 6e siècle et peuvent décrire l'organisation d'une époque plus tardive. Le christianisme semble se heurter à de vives résistances, surtout de la part de la communauté juive. Le successeur de Tite, Philippe, parvient à détourner les persécutions romaines contre les chrétiens. Cependant, en 250, les persécutions de l'empereur Dèce semblent être particulièrement dures en Crète. Les victimes de celles-ci deviennent les premiers martyrs de l'église crétoise, appelés-le Esdicin, Agiwadeka. Cyril, évêque de Gortyne, est lui-même exécuté par les Romains. Sauvé des flammes par un premier miracle, on lui tranche finalement la tête. Il faut attendre le 6e siècle pour voir le premier grand monument chrétien, la basilique Saint-Tite de Gortyne. Période byzantine. Première période byzantine. Il existe peu de sources concernant la Crète de cette époque, car comme d'autres provinces occidentales de l'Empire byzantin, elle a peu attiré l'attention des chroniqueurs byzantins. Ceci est sans doute dû au fait qu'elle est en périphérie du monde grec. Et c'est sans doute également cette périphéralité qui explique l'absence d'évêques crétois au premier concile de Nicée en 325, alors que des îles plus petites telles que Kos, Rhodes ou Chios y sont représentées. Lors de la réorganisation de l'Empire, par Dioclétien en 285, la Crète est séparée de la Cyrénaïque et rattachée à la Mésie. Plus tard, Constantin le rattache à l'Illyrie, dont elle est un des 12 diocèses, avant d'être rattachée à la Macédoine au IVe siècle. Sous Justinien, l'île est divisée en thèmes, dirigée par des stratèges. Vers 754, Constantin ramène définitivement la Crète, sous le contrôle de l'église de Constantinople. Ce dernier changement intervient en pleine crise iconoclaste, qui touche aussi la Crète, jusqu'alors plutôt en faveur de la vénération des icônes. L'auteur byzantin Hiéroclès estima 22 le nombre de villes en Crète à cette période. À partir de ce constat, l'historien Toshari de Thoraki estime la population de l'île à environ 250,000 habitants. Au cours de cette première période byzantine, la Crète est le théâtre de nombreuses incursions et catastrophes naturelles. Le 9 juillet 365, un tremblement de terre suivi d'un raz de marée détruit plusieurs villes. En 415, Gortyne est à son tour détruite par un séisme. Après une première incursion des Vandales en 457, les Slaves qui avaient essayé de prendre Thessalonique vers 597, avant de déferler par la Thessalie et la Grèce centrale vers le Péloponnèse et les îles, envahissent la Crète en 623. À partir de la seconde moitié du 8e siècle, apparaît la menace arabe. Des pirates arabes pillent les côtes crétoises en 656, 671, 674, puis de façon répétée au début du 8e siècle. La domination arabe. L'histoire de la conquête arabe de la Crète débute loin de Crète. Au début du X siècle, l'Espagne est musulmane. En 813, des musulmans d'Andalousie se soulèvent contre l'émir Al-Hakam Ier. Vaincus, ils doivent partir d'Espagne et trouvent refuge en Égypte, où ils profitent des crises politiques pour s'emparer d'Alexandrie, 818-819, avant de devoir en partir. Leur attention se porte alors sur la Crète, un choix peut être guidé par les Égyptiens qui ont toujours gardé un œil sur l'île. Au cours de l'année 824, Abou Aforé menait un premier raid de reconnaissance en Crète, accompagné de pillages, avant d'emmener la conquête en 825. Séduit par la beauté et la fertilité du climat, les Arabes décident de s'y fixer. Abou Aforé crut voir en la Crète, là, terre délicieuse où coule le lait et le miel, et que Mahomet promet à ses croyants. Si certaines thèses estiment que les Arabes auraient débarqué dans l'actuelle baie d'Almiro, à l'ouest d'Héraclion, ou dans la baie de Souda, il semble cependant qu'ils aient plutôt débarqué sur les côtes au sud de l'île, en partie parce que les Byzantins sont moins à même de répondre rapidement à une attaque par le sud. Dirigés par Abou Af, ils conquièrent l'île en quelques années, hormis la région de Sfakia. Cette conquête est facilitée par une crise politique interne au sein de l'Empire byzantin qui ne peut assurer la défense de l'île. Les Arabes fondent une capitale nouvelle sur la côte nord de l'île qu'ils fortifiaient autour d'un profond fossé. Ce fossé lui donne son nom, Kandax ou Andaka, qui signifie retranchement en arabe et qui donne plus tard Kandi pour désigner à la fois Héraclion et l'île tout entière. L'île devient un émirat largement indépendant des autres régions arabes et se transforme en une principauté héréditaire. La pression économique sur la population locale et la piraterie permettent la survie de l'émirat. Les Crétois sont soumis à une servitude sévère. La Crète se détache du reste de l'Empire byzantin et s'efface économiquement et culturellement. Aucun monument ni aucune œuvre littéraire, ni le nom d'une figure intellectuelle de l'époque, ne nous sont parvenus. En revanche, les Arabes dynamisent l'agriculture de la Crète en y développant la canne à sucre, le coton et le mûrier. Pour les orthodoxes, le martyr de Cyril, évêque de Gortyne au moment de l'invasion, semble être un des faits les plus marquants. Les sources disponibles, grecques et arabes, ne permettent pas de savoir si les Arabes ont été respectueux ou non des lieux de culte chrétiens. Les conversions à l'islam sont peut-être limitées et sûrement non obligatoires, n'étant pas intéressantes financièrement pour les Arabes, car les chrétiens sont soumis à l'impôt foncier du Khadj, capitation payée par les non-musulmans. Pendant le siècle et demi d'occupation arabe, l'île redevient une base de la piraterie. Tout au long des X et X siècles, les Sarrasins mènent des raids vers Lesbos, la péninsule du Mont Athos 862, en Chalcidique 866, les côtes adriatiques 872-873, ils pillent Salonique en 904. L'île constitue pendant un siècle et demi le point d'appui majeur de la puissance maritime arabe dans le bassin oriental de la Méditerranée. Ainsi, pour les Byzantins, la reconquête de la Crète ne signifie pas seulement la libération, mais aussi la neutralisation de cette menace pour les flottes de Méditerranée et la reprise du contrôle des voies commerciales dans la région. Seconde période byzantine. Reconquérir la Crète n'est pas une tâche aisée pour Byzance, compte tenu de son éloignement géographique. De plus, l'Empire byzantin doit faire face à des ennemis sur tous les fronts, ce qui est le principal obstacle au lancement d'une offensive majeure en Crète. Dès 826, Michel de Nomfoteno, déjà gouverneur du thème d'Anatolie au rang de stratège de Crète. Il débarque dans l'île, mais les habitants ne se soulèvent pas à son appel. L'armée de secours menée par Cratro est écrasée par les Sarrasins, malgré quelques succès dans les premiers temps. Cratro est semble-t-il fait prisonnier sur l'île de Koh et empalé. Entre 826 et 949, trois autres tentatives échouent. En 844, l'armée avec à sa tête le logothète Théoctistos, malgré des débuts prometteurs, est battue dans le Bosphore par les Arabes. En 948, Byzance vient de repousser la menace des Hongrois et des Thraces et peut à nouveau se concentrer sur la Crète. Ainsi, Constantin VII lance contre la Crète une offensive de grande ampleur, cette fois encore sans résultat. La reconquête de la Crète a lieu en 961, lorsque Nicéphore Phoca prend le commandement de l'expédition militaire. La stratégie de Nicéphore repose sur la supériorité numérique de ses soldats et sur la puissance de la marine byzantine. Il fait lever des soldats dans tous les thèmes d'Asie et d'Europe, auxquels il ajoute les corps d'élite de la garde de 000 Dromon munis du feu grégeois et plusieurs centaines de vaisseaux de transport. Il rassemble ensuite ses troupes à Fijla, en Asie mineure pendant l'été 960. Nicéphore Phoca débarque dans le nord de l'île en juillet de la même année et marche sur Shan. Dax qu'il assiège de la seconde moitié de 960 à mars 961. Ce siège est dur et prolongé, Chandax résiste plusieurs mois, mais finit par tomber le 7 mars 961. Les musulmans sont massacrés et la ville pillée. Le reste de l'île tombe rapidement. Les Byzantins ramènent de Crète un immense butin. Les sources mentionnent que 300 navires sont nécessaires à son transport. Nicéphore en envoie une partie à son confesseur, Saint Athanase, afin qu'il fonde le monastère dans lequel le général byzantin souhaite finir sa vie. La fondation du premier monastère du Mont Athos est ainsi liée à la reconquête de la Crète par les Byzantins. Il semble que la période d'occupation arabe ait été une période de pillage et d'une baisse de la natalité. Pour pallier cette situation, Phoc a réduit les Sarrasins en esclavage, fait fermer les mosquées et envoie des missionnaires sur l'île. Il fait installer des colonies de Grecs, d'Arméniens et de Slaves, afin de repeupler la Crète. Les villes sont pourvues de fortifications. En 1082, l'empereur byzantin Alexis Ier Comnène envoie des colons choisis parmi les meilleurs familles aristocratiques de l'Empire afin de contrer le développement démographique de la population autochtone. Il leur octroie de grandes surfaces et des privilèges. Elles sont les fondatrices de la nouvelle aristocratie crétoise qui est liée aux révoltes dans l'île au cours des périodes suivantes. La domination vénitienne. La quatrième croisade, lancée initialement contre l'Égypte par le pape Innocent II en 1198, amène finalement les croisés jusqu'à Constantinople et le partage de l'Empire byzantin. Le comte de Flandre est élu empereur par les croisés. Boniface de Montferrat, proclamé roi de Salonique et de Macédoine, se voit aussi accorder la Crète. Gênes et Venise, attirés par l'importance commerciale des îles de l'Égée, lui font chacune des offres pour lui acheter l'île. Les Vénitiens l'emportent en 1204 en échange de 1,000 marques d'argent et des terres en Macédoine. Ils placent à la tête de l'île Jacques Tiepolo avec le titre de duc de Candie. Cependant, Venise est à cette époque principalement occupée à consolider ses positions dans le Péloponnèse. Elle n'est pas prête à prendre possession de l'île. Les Génois en profitent pour s'emparer d'une grande partie de la Crète centrale, sans réelle résistance de la part des Crétois. Après une tentative infructueuse en 1206, les Vénitiens reprennent l'île en 1208 à 1209, alors que Gênes se trouve incapable de soutenir ses troupes en Crète. En 1212, Tiepolo parvient à un accord avec les Génois qui évacuent l'île à l'exception de quelques enclaves qu'ils gardent jusqu'en 1217. Si, en 1294, les Génois se rendent temporairement maîtres de la Canée, c'est pourtant bien une domination vénitienne qui s'installe en Crète pour 4 siècles. Institution vénitienne. Liste de ducs de Candie. Astérisque Giacomo Tiepolo, 1212 à 1216. Astérisque Pietro Quirini, 1216. Astérisque Domenico Delfino, 1216 à 1217. Astérisque. Astérisque Paolo Corino, 1222. Astérisque. Astérisque Giovanni Storlando, 1228. Astérisque. Astérisque Stefano Giustiniani, 1236. Astérisque. Astérisque Angelo Morosini, 1255 à 1259. Astérisque. Astérisque Giacomo Delfino, 1261 à 1262. Astérisque Giovanni Vlenio, 1273-1274. Astérisque Marino Zeno, 1274. Astérisque Marino Morosini, 1274 à 1276. Astérisque Pietro Zeno, 1276. Astérisque. Astérisque Marino Gradnigo, 1279. Astérisque. Astérisque Giacomo Dandolo, 1284. Astérisque. Astérisque Albertino Morosini, 1290 à 1293. Astérisque. Astérisque Michel Vitali, 1299. Astérisque. Astérisque Mario Morosini, 1329 à 1331. Astérisque. Astérisque Viago Zeno, 1333. Astérisque. Astérisque Condra Cornaro, 1341. Astérisque. Astérisque Peter Emiliano, 1343. Astérisque. Astérisque Goffredo Morosini, 1355 à 1357. Astérisque Marco Morosini, 1357 à 1359. Astérisque. Astérisque Leonardo Dandolo, 1362. Astérisque Marco Gradnigo, 1363 à 1364. Astérisque Pietro Morosini, 1364 à 1366. Astérisque. Astérisque Paolo Giuliani, 1382. Astérisque. Astérisque Tommaso Mocenigo, 1403 à 1405. Astérisque. Astérisque Lodovico Morosini, 1407 à 1409. Astérisque, astérisque Agidio Morosini, 1417 à 1418. Astérisque, astérisque Ondra Mocenigo, 1441 à 1443. Astérisque, astérisque Pedro Lui, 1455. Astérisque,